Bernard Goltz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychiatrie infantile à l'hôpital Necker Enfants Malades, chercheur au laboratoire notamment médecine et psychanalyse de l'Université Paris 7, psychanalyste et auteur d'ouvrages qui relatent une pratique clinique auprès et autour de la question du bébé. Nous avons prévu cette rencontre pour parler de l'héritage de Sigmund Freud en psychanalyse d'enfants, héritage intellectuel en général et héritage clinique. Pour le praticien que vous êtes. Et cette rencontre s'inscrit dans un contexte commémoratif à l'occasion du 70e anniversaire de la disparition de Sigmund Freud et aussi de l'ouverture de ses archives à New York très prochainement, dans quelques mois, l'année prochaine. Donc ça justifie une actualité éditoriale soutenue. Il y a une biographie qui vient de sortir par Gérard Hubert, une biographie psychanalytique de Sigmund Freud. Les résumés des correspondances de Freud dans la collection Hermann, et puis diverses choses là qui sont en train de sortir de manière égrenée. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est selon vous, si Sigmund Freud était parmi nous aujourd'hui, quel regard porterait-il sur la psychanalyse d'enfants?
Bon, c'est toujours difficile de faire parler les gens absents, hein, bien entendu. Et c'est vrai que pour Sigmund Freud, la psychanalyse de l'enfant, je crois, était importante, mais n'a pas non plus représenté le centre de sa réflexion. Mais il a ouvert des pistes absolument énormes, alors que sa fille Anna Freud a développé. Mais je crois que ça va au-delà. Par exemple, je pense qu'il serait extrêmement intéressé par tous les développements actuels sur le fœtus. Et il y a en particulier dans Inhibition, symptômes, angoisses en 1926, donc ça ne date pas tout à fait d'hier, hein, l'exemple type d'une intuition formidable qu'il a eue à propos de la naissance des bébés. Où il a dit en substance, bon, je cite cette phrase un petit peu de mémoire, mais je crois que c'est à peu près ça. Il a dit à cette époque, dans ce livre, il y a probablement, disait-il, plus de continuité entre la vie prénatale et la vie postnatale que l'impressionnante césure de la naissance ne nous donnerait à croire. Ça, c'est une phrase extrêmement importante, hein. Alors en 1926, dans bon, son livre Inhibition, symptômes, angoisses, c'était la réponse, sa réponse au texte de Rank en 1924 sur le traumatisme de la naissance. Là, peut-être on peut faire un petit peu d'histoire vivante, hein, parce que les théories des auteurs sont toujours enracinées par le contexte affectif, leur contexte affectif de l'époque. Alors c'est vrai qu'en 1924, Otto Rank avait écrit un livre sur le traumatisme de la naissance. Et à ce moment-là, Otto Rank était une sorte de fils spirituel de Freud. Freud avait énormément d'espoir en Otto Rank, qui était un personnage extrêmement profond, extrêmement intelligent, extrêmement créatif, très très bouillonnant d'activité. Et le traumatisme de la naissance, donc Rank avait voulu soutenir l'idée qu'au fond, toutes nos angoisses ultérieures, d'enfants, d'adolescents, d'adultes, étaient la reprise, la transformation, mais la reprise d'angoisses prototypiques, initiales, s'exprimant au moment de la naissance. Et au début, Freud avait d'abord été très intéressé par cette thèse, en pensant que, il adhérait assez à cette vision des choses. Aujourd'hui, d'ailleurs, on garde quelque chose de ça, hein, en se disant qu'il y a dans l'angoisse à la fois des phénomènes somatiques, physiques, et des contenus psychiques, et qu'au fond, quand il y a un moment d'angoisse, eh bien, il y a une accélération ou une décélération du cœur, il y a des phénomènes de pâleur, des phénomènes de transpiration, des phénomènes corporels, qui existent aussi au moment de la naissance, quand le fœtus est en train de devenir bébé. Et aujourd'hui, on garde assez facilement l'idée que dans les aspects corporels de l'angoisse, il y a quelque chose qui nous vient de très loin et peut-être de la naissance. En revanche, on a un petit peu perdu l'idée que les contenus de l'angoisse, des angoisses ultérieures, sont en lien avec la naissance en tant que telle. Enfin, dans un premier temps, Freud a été assez intéressé par cette idée d'Otto Rank. Et puis, très vite, 1924-1925, il a commencé à être argumenté. Cette position, et en étant finalement très fâché. très fâché de cette proposition de Rank, parce qu'il a senti que derrière cette proposition, il y avait une espèce de provocation de Rank, qui était en train de dire, à travers son idée de traumatisme de la naissance, qui était en train de dire aux psychanalystes que l'Œdipe, c'était important, que la névrose était importante, mais que quelque part, s'obséder sur la thématique œdipienne, c'était une défense pour ne pas voir ce qu'il y avait avant. Et avant, il y avait le bébé, et avant le bébé, il y a le nouveau-né, et avant le nouveau-né, il y a le fœtus. Et alors, très curieusement, c'est Sylvain Missonnier, qui est professeur de psychologie à Paris 5, puisque je dépends aussi de Paris 5 et pas seulement de Paris 7, c'est Sylvain Missonnier qui a fait tout un travail pour montrer que l'hostilité, la discussion de Freud vis-à-vis de Rank, alors que d'habitude, il est dans des discussions extrêmement calmes, profondes, approfondies, il a été avec quelque chose d'un petit peu superficiel, il a un mouvement d'humeur, qu'est-ce que c'est que ça, je n'en veux pas. Comme s'il s'était senti trahi par ce fils spirituel qui venait dire au psychanalyste, et donc à Freud lui-même, l'Œdipe c'est bien, mais il y a un avant Œdipe. Et à vous obséder sur l'Œdipe, vous vous défendez contre des angoisses plus archaïques. Alors il faut dire qu'à ce moment-là, 1924, 1925, 1926, c'est aussi le moment où sa fille non plus spirituelle, mais sa fille biologique, Anna Freud, commence à lancer le mouvement qui va mener à la psychanalyse de l'enfant. Et je ne dis pas que là, il s'est senti trahi, mais enfin, il y avait un développement de la psychanalyse qui lui échappait un petit peu, qui allait s'incarner ensuite à travers Anna Freud, notamment. Et au fond, ben, l'Œdipe a été gagnant. C'est-à-dire qu'il a accepté de soutenir sa fille dans une direction nouvelle, mais il a refusé à Rank de soutenir sa position sur le traumatisme de la naissance. Et d'ailleurs, il y a eu ensuite une brouille entre Rank et Freud, et la relation s'est achevée. Cette phrase, je reviens à cette phrase quand même. Cette phrase, en 1926, c'est une intuition très profonde. C'est l'idée de dire que pour le spectateur de l'accouchement, la mère d'abord, mais aussi le père, les médecins qui sont là, les sages-femmes. Évidemment, il y a quelque chose de très spectaculaire. C'est-à-dire qu'avant la naissance, le bébé, le fœtus est dedans. Après la naissance, le bébé, le nouveau-né est dehors. Et qu'il y a un moment vraiment de coupure, de césure très important. Mais l'idée, l'intuition de Freud, c'est de dire que pour le bébé lui-même, c'est pas sûr qu'il y ait un changement aussi considérable. Et il ne peut pas aller beaucoup plus loin en 1926. Mais vous voyez, aujourd'hui, on est dans les conséquences de tout ça, parce que vous me demandez l'héritage. Et c'est 50 ans plus tard, absolument 50 ans plus tard, que Bion, en 1976, dans un congrès sur les états limites à Topeka, va reprendre cette question de la césure de la naissance, cette phrase de Freud. Bien sûr, entre 1926 et 1976, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, et notamment tout le développement sur les processus archaïques, les processus originaires, les éléments bêta de Bion, qui sont un petit peu l'ancêtre épistémologique de tous les signifiants primordiaux qui suivent. Et Bion va reprendre cette question en disant, avec des outils donc conceptuels que Freud n'avait pas en 1926, et en se mettant dans les pas de Freud, en disant effectivement, pour le bébé, il n'y a pas forcément une césure aussi considérable entre l'avant et l'après-naissance, parce que pendant la grossesse, il y a déjà toute une série d'inscriptions sensitives, sensorielles, pré-psychiques qui sont là, au niveau de ne serait-ce que des appareils sensoriels du fœtus. La médecine fœtale a fait beaucoup de progrès. On sait maintenant que le tact se met en place, puis l'olfaction, puis le goût, puis l'audition, puis le visuel. Donc il y a, je ne dirais pas qu'il y a une vie psychique absolument du fœtus, mais il y a un travail d'inscription sensorielle du fœtus. Les premiers signifiants, les premières inscriptions, les premières représentations, pré-représentations mentales. Et au fond, c'est ce qu'on appelle les processus originaires, commencent à se mettre en place pendant la grossesse, et eux, ils vont passer en pont par-dessus l'accouchement. Et c'est après l'accouchement, alors le bébé va rencontrer l'environnement, il va rencontrer le travail psychique des gens qui vont prendre soin de lui, les adultes, les parents ou les professionnels, et à ce moment-là, ces processus originaires vont pouvoir se transformer en ce que Freud a toujours appelé les processus primaires et secondaires. Mais vous voyez que tout le développement actuel de la médecine fœtale, des conceptions qu'on a sur les prémices de la vie psychique chez le fœtus, chez le nouveau-né, chez le bébé, ça font écho à cette phrase de Freud de 1926 qui épistémologiquement était vraiment extrêmement novatrice.